Inter, il est 15h03.
Bonjour, c'est Jacques Vendroux. Je vous donne rendez-vous pour la 6e édition du Sportif Français de l'année des auditeurs de Radio France. Votez jusqu'au 31 décembre sur franceinter.fr pour choisir celui ou celle qui vous a fait le plus vibrer cette année. L'annonce du lauréat et de la remise des prix auront lieu le 15 janvier en présence des parrains Eunice Barbeur et Fabien Barthès.
Le Sportif Français de l'année en partenariat avec InfoSport Plus et Le Parisien aujourd'hui en France.
France Inter, la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et ça commence maintenant sur Inter.
24 heures sur 24, on écoute la radio, ils disent là. Et c'est vrai que c'était vachement beau, France Inter, quand c'était vraiment 24 heures sur 24. Je dois à France Inter mes premières nuits blanches, quand même, ou quasiment. Caché sous l'oreiller, rallumer la radio pour écouter José Arthur, et toutes les émissions de nuit, c'était vraiment bien. Et ça, c'est vraiment un grand regret qu'aujourd'hui, quand on n'arrive pas à dormir, et ben, tout ce qu'on a, c'est de réécouter ce qu'on a déjà entendu la journée. Ou ce qu'on n'a pas entendu la journée, mais qui n'ont rien à voir avec un programme de nuit, quoi. Parce qu'un truc qui est diffusé à midi, ou à 15h, ou à 16h, ça n'a pas la même ambiance qu'un truc qui est fait pour la nuit. Donc les rediffs la nuit, c'est vraiment une honte. C'est une honte. Alors heureusement qu'il reste plein d'émissions qu'on aime encore, dont celle de Mermet, mais d'autres aussi, les émissions d'histoire. La prochaine fois, je vous le chanterai. Mais c'est quand même dommage qu'on ait sacrifié la nuit. Et Monsieur Val, là, qui veut toujours faire le beau, il pourra peut-être faire le beau en nous ramenant une vraie radio de nuit. C'est Françoise de Paris.
Salut Daniel, tu parles de Michel Droit, de Jean-Paul David et des autres chroniqueurs, pardon, de Radio France de l'époque. Au passé, mais c'est une erreur. Ils sont toujours là. Ils ont juste changé de nom, changé d'identité. Ils s'appellent Alain Finkielkraut ou Christophe Barbier.
Sur le répondeur de France Inter, moi je veux le dire clairement, là-bas si j'y suis, c'est une des émissions les plus pourries de la radio France Inter. Et moi ce que je souhaite, c'est que vous creviez tous dans des souffrances atroces.
France Inter, la voix est libre. Chiche, Philippe Val. Rappelle Stéphane Guillon. Salut.
La grande radio de service public fête ses 50 ans. C'est une radio généraliste, donc elle est censée traiter de tous les sujets. J'ai passé en revue pas moins de 55 émissions différentes. Certaines passent 5 jours sur 7, d'autres 4 jours sur 7, ou une fois par semaine seulement. Si l'on exclut les tranches d'information, on s'aperçoit vite que presque tous les programmes sont au service exclusif de l'industrie culturelle. Si vous êtes chanteur, musicien, acteur, metteur en scène, écrivain, vous avez une petite chance que l'on parle de vous, de votre univers artistique, à condition d'avoir tiré la bonne carte, bien sûr. Pas moins de 10 émissions sur la musique, au moins 8 magazines multiculturels, le cinéma, le théâtre sont gâtés, mais la science, l'histoire et l'économie ne sont pas oubliées. De même, nos amis les bêtes, la grande cuisine et le sexe à minuit sont là aussi. L'auditeur cultivé et diplômé est donc choyé. Mais les sujets qui préoccupent au plus haut point les citoyens ont-ils leurs émissions ? Quid de l'emploi et du travail, de la santé, de la protection sociale, du logement par exemple ? Ah si, le dimanche, entre 13h20 et 13h30, le magazine Périphérie traite de la banlieue et de ceux qui y vivent. La voix est libre sans doute, mais l'élitisme la rend inaudible au plus grand nombre.
Hier, j'avais l'oreille distraite, Daniel Mermet en bruit de fond, dans les mains une paire de chaussettes, et là, qu'est-ce que j'entends ? Mon nom. Je me dis, ça perd l'hypopète. Si j'avais fait plus attention, j'aurais pas loupé le poète. Faut faire gaffe avec les Bretons. Heureusement, il reste Internet. Me v'là partie à Beauredon. J'ai pas d'ordinateur, c'est bête, mais des potes, c'est bien aussi, non ? Le poème était bref, mais chouette. Il nous a bien plu, sacré nom. Merci à toi, Breton poète, pour ces 8 vers de Mirliton. C'était Christine du Limousin.
Il faut rapprocher le micro de la fenêtre. Il faut rapprocher le micro de la fenêtre. Voilà ce qu'on entend dans l'un des premiers reportages de l'histoire de la radio. Et la célébration des 50 ans de France Inter, cette semaine, nous fournit une occasion de fouiller dans la préhistoire. De là-bas, si j'y suis, vers ceux qui, dès les années 20, ont peu à peu inventé ce langage qui va du bruit au son et du son au sens. Voilà. Aujourd'hui, le reportage radiophonique et les reporters radiophoniques. Tantôt baroudeur fanfaron, tantôt petit reporter aux ordres du chef, tantôt à côté de la plaque, tantôt trop tôt, tantôt trop tard. Le reporter est le héros favori de Là-bas si j'y suis. Et votre héros, à vous aussi qui nous écoutez chaque jour Là-bas si j'y suis, parce que ce baroudeur, ce reporter, c'est le personnage même de Là-bas si j'y suis, celui qui tend son micro vers la lune, tentant de l'interviewer, tentant de l'interviewer ou de ramasser quelques sons, quelques bruits, voire même du silence. Très très important le silence. On finira, si tout se passe bien, cette heure avec celui qui disait qu'il fallait absolument enregistrer toutes les minutes de silence, parce qu'aucune minute de silence n'a le même son. Et celui-là, c'était Yann Barantoy. Mais ça, ce sera à la fin. Ce sera la cerise sur ce gâteau d'histoire, de reportage autour du reporter, ce personnage risible. Et souvent risible, c'est vrai. Et génial, parfois, lorsqu'il a enfin l'idée de rapprocher le micro de la fenêtre. C'est notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse Ulysse Miro. 01 56 40 37 37.
Valet rétro-spermato. Non, ce n'est pas un de ces films portant atteinte à la salubrité publique que Michel Droit clouait au pilori en 1973 dans une de ses chroniques que l'on a entendues ce lundi à la Bassi J'y suis. C'est le titre d'un film où il est question d'un moyen très sérieux de contraception masculine par la chaleur. D'autres méthodes existent et on en parlera au repère de Limoges où sera aussi posée la question « Pas d'enfant, et alors ?» C'est mercredi 4 décembre à 18h30 au bar Les Folies, place des Jacobins.
Salut à tous. Le mercredi 4 décembre à 19h, les auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et sa région se retrouveront au bar Le 34, 34 boulevard Gambetta à Nîmes. Nous discuterons sur tous les sujets de ce monde. Venez nombreux, on vous y attend. Roland Dugard.
Bonjour, c'est Solange. On fait de radio, comment la radio invente des mots. Depuis deux ou trois fois, Monsieur Cohen circule dans sa matinale avec le mot matinalier. Donc Monsieur Cohen est en train d'inventer le mot matinalier. Donc je ne sais pas quel mot pourrait s'appliquer à Monsieur Mermet qui lui passe à 15h. Bonne journée.
Aujourd'hui, l'information a pris conscience de l'exacte importance de son rôle dans le cadre d'une technique devenue désormais oreille et bouche universelle. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui informent.
Voici la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui signifie que le Tour de France va se terminer par la victoire du populaire breton Robic.
Aujourd'hui, partout, en quelques points du monde où l'événement surgit, le micro est là.
Nos correspondants sont d'ailleurs à l'antenne. Nous allons donc nous renseigner aux sources. New York ?
Oui, c'est à côté à New York.
Beyrouth ?
Ici, Jacques-Olivier à Beyrouth.
Londres ?
Ici, Jacques-Olivier Chatard à Londres.
Jacques-Olivier Chatard. Allô ? Allô ?
Allô ? Allô ?
Ce qu'on émet, ce qu'on reçoit, témoignages des souvenirs, paroles désormais plus indélébiles que les écrits, l'histoire des mots qui font l'histoire.
Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris.
Ouvrez les cloches.
Nous entendons les cloches de notre quartier.
Mais il faut approcher le micro dans la tête.
Le reporter radiophonique n'a plus seulement au service de son métier le mot froid, raisonné, le mot clinique qui explique et dissèque, mais aussi sa propre voix, le ton de sa voix qui humanise, qui véhicule son émotion, cette émotion immédiate, communicative et directement jaillissante du bouillonnement de la vie.
Il tire à la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur.
Il vaut mieux se baisser, oui, je crois.
Je suis en train de tirer sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
En direct avec vous,
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que je suis avec Antoine Chao et Norbert Vallée. Il faut rapprocher le micro de la fenêtre.
Mes chers auditeurs, quelle ambiance cette année dans ce vélodrome d'hiver. Les coureurs n'arrêtent pas, pas de répit, des chasses continuelles, des primes incessantes.
Les 6 jours de Paris, reportage en direct.
Vraiment, les populaires en ont pour leur argent cette année.
Août 1938.
Ils applaudissent les équipes françaises, et surtout Guimbretière et Archambault qui mènent des chasses continuelles aux équipes comme Kerse-Billet, qui est l'équipe la plus redoutable cette année. À la pelouse, les plus belles femmes de Paris, c'est-à-dire, je veux dire, plutôt au restaurant, attablé, regarde cette lutte incessante. Nous voyons des têtes connues, des boxeurs connus comme Al Brown qui vient fréquemment, des chanteurs, des acteurs comme des chansonniers comme Max Blow. Mais on ne peut pas s'arrêter. On regarde continuellement ce spectacle inouï de ces 15 hommes, de ces 30 hommes, je veux dire, qui sans arrêt poursuivent des chasses continuelles. Un moment de répit. Cette aiglie qui repart, bien relayée par Boucheron. À droite, à gauche, on peut regarder partout. On ne sait pas ce qui se passe. Les populaires hurlent. Des cascades de cris déferlent sur les virages. La toute charmante, Paulette Dubost, la reine des 6 jours, regarde avec un sourire charmant sur ses lèvres ce qui se passe.
Grand homme, vers le départ ici, au vélodrome d'hiver, afin de dire. Et une course de 145 heures. Ces hommes, au nombre de 30, si je vous le disais voici quelques instants, étaient divisés en 15 équipes de 2.
Petite boîte que j'ai serrée contre moi dans ma fuite, transportée de maison en bateau et de bateau en train, pour que mes ennemis puissent continuer jusqu'au seuil de la nuit et dès mon réveil à me parler de leur victoire et de mes misères. Petite boîte, promets-moi de ne pas devenir muette tout d'un coup. C'est Brecht qui parle, Bertolt Brecht. Il parle de la radio, mais de la boîte, du poste de radio. Longtemps, la radio, c'était ça, c'était le poste. Et on était autour de cette boîte en bois avec un peu de lumière et l'œil magique et l'écran. Et on écoutait et on voyait surtout. Et tandis que de l'autre côté, les gars, les reporters, là, en 1938, créaient cet art de la suggestion simplement avec la voix, avec les intonations, avec les inflexions, avec les mots qui suggèrent, qui montrent, mais qui viennent de la présence même du reporter, là où il est, au Veldiv, en 1938. Les mots lui viennent parce qu'il est là. Parce qu'il est là avec son corps, avec ses pieds, avec sa tête, avec ce qu'il sait, avec ce qu'il ignore, et surtout avec ce qu'il ressent. Et de là, les mots mêlés au son partent aux quatre coins du monde, partent aux quatre coins des foyers, partent aux quatre coins de la TSF, et chacun de l'autre côté, chacun voit une chose différente et imagine une chose différente. Imaginez cette magie, à l'époque c'était tout à fait extraordinaire. La radio a eu un succès fou, le poste de radio et ce qu'il y avait dedans. À peu près toutes les émissions que vous écoutez aujourd'hui avaient été inventées avant la Deuxième Guerre mondiale, depuis le crochet radiophonique, le jeu, les tribunaux pour rire et le reportage. Et le reportage, là-bas, si j'y suis, absolument rien inventé et simplement le fils ou la fille, j'espère, digne de cette lignée de reporters qui ont inventé au cours du temps, avec toutes les tribulations de la technique et de l'histoire et des pouvoirs, cet art qu'est le reportage radiophonique, mais surtout le plus important, il faut rapprocher le micro de la fenêtre. Voyons voir. C'est évident.
Thank you. quel guide de l'exposition. Je m'appelle Daniel Pinoche. Du jour au lendemain, c'est moche. J'ai perdu ma situation. Mais j'ai trouvé fort heureusement une position que l'on m'envie. Au poste radio fantasy, c'est là que j'exerce mes talents. C'est moi le radio reporter. Ça, c'est un métier qui a du charme. D'abord, presque toujours à l'air. Mais je commence, oh, quel vacarme. Nous sommes, mes chers auditeurs, à Auteuil, un jour de grand stimule. Il y a des incidents multiples, 30 chevaux et 300 000 joueurs. Si vous n'êtes pas un idiot, pour les reportages en radio, écoutez Pipi, écoutez Pipi, écoutez Daniel Pinoche. Ce n'est pas toujours spirituel, mais ça part d'un bon naturel. Écoutez Pipi, écoutez Pipi, écoutez Pinoche, Daniel.
Je me trouve dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve M. Laville.
Radio Paris, 1942.
Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à M. Laville en quoi cette mesure se justifie.
Reportage de Jacques Estiévan.
Les Juifs, évidemment, se lamentent, et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer ?
Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Eh bien, on leur impose l'étoile de Sion. Ce n'est pas une très grave mesure, croyez-le bien. C'est en quelque sorte leur drapeau. Nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'ils ne gardent plus leur drapeau dans leur poche.
Il faut donc que les Français comprennent qu'ils n'ont pas à avoir cette espèce de sensiblerie dangereuse en l'espèce, mais qu'au contraire, c'est pour eux, c'est dans leur intérêt que cette mesure est prise.
Mais naturellement, supposez que demain, 1 million de peaux rouges soient répandues sur notre sol. Le public se dirait, mais tout de même, il y a un danger pour notre race ou notre ethnie française, n'est-ce pas ? Mais le juif ayant la peau tout à fait semblable à la nôtre, les gens n'ont pas aperçu le danger qui est réel.
Eh bien, j'espère que maintenant, ils auront compte.
Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
L'association des journalistes anti-juifs change de siège et s'installe dans un charmant hôtel, 3 rue de Lotta.
Radio Paris, 1941.
Devant une nombreuse assistance, c'est d'abord M. Gendron, président d'honneur de l'association des journalistes anti-juifs, ancien secrétaire d'Edouard Drumont, qui prend la parole.
Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Es ist Standard Kurt-Egger, Berichte in französischer Sprache.
27 juin 1944, Reportage, le débarquement vu par les Allemands.
27 juni 1944, Raum Ostwestlich der Orne, deutscher Titel, junge Kraft, französischer Titel, jeune Fort. C'est dans un secteur des plus agités que je me trouve aujourd'hui. La bataille depuis quelques heures a commencé, avec une violence inouïe, à une cadence indescriptible. Partout l'on voit des éclatements d'artillerie, des gerbes de feu. Le ciel est morne et les ruines récentes des bombardements donnent au paysage un air lugubre de la guerre. La guerre est là. Sur cette belle terre de France, la mort fauche sans pitié. Les Français, les femmes et les enfants. Et l'un des plus beaux cheptels de la France, la sauvagerie des raids anglo-américains, fait trembler cette contrée normande. Le feu roulant de l'artillerie rend l'atmosphère irrespirable. Mais me voici parvenu après de nombreux plaventes auprès de ces jeunes combattants allemands, cette belle jeunesse nationale-socialiste qui se bat d'une façon impeccable. C'est l'avenir que défend cette jeunesse, la vraie liberté. La bataille fait rage. Dans l'air, les avions grondent. Ce matin, déjà, quelques avions américains furent descendus, avec un bruit bien connu, comme s'ils hurlaient à la mort. Mais n'ont-ils pas déjà d'ignobles crimes sur la conscience? Le sort se venge. Les duels d'artillerie se poursuivent. La chute des éclats s'intensifie. J'ai près de moi des camarades qui sont venus volontairement dans les rangs de la Waffen-SS pour combattre contre ceux qui lâchement déversent des bombes sur nos villes et nos villages sans la moindre pensée. Ces innocentes victimes crient vengeance. Ces jeunes se battent en chevaliers. D'une ardente ferveur contre les soi-disant libérateurs qui ne savent que donner la mort et la misère au peuple qu'ils voulaient asservir. En leur disant, nous vous libérons. La bataille continue, mais cette belle et forte jeunesse pense, ils nous auront pas.
Le reportage était parfois rejoué sur des fonds sonores, pas toujours in vivo, pas toujours si spontané, mais c'était une tradition qu'on retrouvait dans la photo, souvenez-vous, des photos de Capa ou de Doineau, qui elles aussi étaient des mises en scène, des constructions, tout comme le reportage que nous faisons aujourd'hui, le style de reportage que nous faisons aujourd'hui, bien sûr que nous avons pour horizon la vérité et pour matière la réalité, mais nous sommes des imparfaits de l'objectif, c'est-à-dire des êtres humains. Nous avons notre façon de regarder et notre façon aussi de ne pas rester indifférent lorsque nous sommes dans ces situations souvent dramatiques où nous sommes témoins. You can't be neutral in a moving train. Vous ne pouvez pas être neutre quand le train est en route. Et là, il était en route ce jour-là, ce 24 août 1944. Au micro, dans les micros qu'on va entendre, il y a Pierre Crenès, mais il y a aussi un certain Pierre Schaeffer, qui deviendra, dans les années suivantes, un des grands maîtres de la radio.
Radiodiffusion de la nation française.
Pierre Crenès, retour de la place de la République avec le quart d'enregistrement, rapporte son premier reportage.
Les Allemands sont bien sur la place de la République.
Oui,
sur toute la place.
À proximité, c'est-à-dire à 150 mètres environ.
Et ils ont élevé eux aussi des barricades de
barricades,
retour.
Oui, et on y a reçu à coup de canon.
Et est-ce que les Allemands lancent en dehors des barricades de la place de la République des patrouilles contre vous?
C'est-à-dire que par le métro seulement.
Par le métro.
Oui, seulement. Les Allemands se camouflent le plus possible parce que j'ai l'impression qu'ils ont peur. Et qu'on se rende en force.
Et de part et d'autre, vous restez sur vos positions, alors.
C'est ça, oui, on dirait qu'on les attend. On va leur demander, puis ils sont plus armés que nous.
Naturellement. Vous n'avez pas du tout de pièces, d'armes comme à la préfecture.
Si vous avez des pièces qu'on a réussi à leur voler.
Oui, quoi, par exemple?
C'est-à-dire des fusils mitrailleurs,
des grenades,
des mitrailleuses lourdes.
Ici Radiodiffusion de la Nation française. Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris.
Ouvrez les
cloches.
Les cloches.
Nous entendons les cloches de notre quartier.
Mais il faut approcher le micro dans la tête.
Et je vais demander aux Parisiens de vous parler eux-mêmes et vous dire ce qu'ils en pensent.
Bravo, ok. Oh, nous sommes tellement contents. Very happy.
Et vous, monsieur, dites-nous quelque chose.
Je suis très émotionné de voir toute cette belle armée qui nous fait réellement notre joie à tous. Et je crie vive la France et vive les alliés.
L'arrivée du général de Gaulle sous l'Arc de Triomphe a été saluée par le cri du capitaine Schumann, honneur et patrie. Et maintenant, avec ses compagnons de la première heure, le général Koenig, le général Join, les membres du gouvernement provisoire de la République, le général de Gaulle quitte l'Arc de Triomphe, descendent à pied les Champs-Élysées en une marche triomphale au mépris d'un danger qui fait peser sur la joie immense de tout Paris accouru, l'immonde menace des salopards.
Un attentat vient de se produire, avenue des Champs-Élysées, presque au coin de la Concorde, sur la place de la Concorde. Des coups de feu ont éclaté immédiatement. Les Français et les Anglais ont riposté.
Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes en costume national, lui ont offert un bouquet tricolore. Le général... Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Les gens se camouflent sous les chaises. Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Les coups de feu crépitent toujours. Les coups de feu crépitent toujours. Les salauds.
Georges Briquet à votre service, qui, pour le compte des services de radio-reportage, vous présente le reportage du match Marcel Cerdan contre Hassan Diouf, avec le concours, non pas le match, mais le reportage de notre camarade Loïs Vendée.
30 novembre 1945, sur la chaîne parisienne.
Il faut que je vous présente très rapidement les deux adversaires. Marcel Cerdan, vous le connaissez, il est né le 22 juillet 1916 à Bellabès, Algérie. Français de nationalité, il habite en général Casablanca, il mesure 1,70 m et pesait aujourd'hui à 2h72 kg. Marié, il est père de deux enfants. En cela, mais je vous laisse entendre l'annonce. Eh bien, vous en savez maintenant autant que nous, puisque vous avez entendu la présentation de Georges Berrettaud. J'ajouterai simplement que Hassan Diouf est né le 2 juin 1912, ce qui lui fait maintenant 33 ans, à Conakry, dans la Guinée française. Et il mesure 1,75 m, c'est-à-dire quelques centimètres de plus que Marcel Cerdan. Il est marié lui aussi et a deux enfants. Mais voici que déjà, les deux boxeurs ont regagné leur point, se préparent à commencer et c'est la première reprise. Et Marcel Cerdan porte une culotte bleue à bande blanche, pendant que Hassan Diouf, qui est noir, comme vous le savez, porte une culotte verte et rouge avec les parements tricolores de champion de France, puisque aussi bien les champions de France. Dès le début, Hassan Diouf essaye son gauche de loin. Il le place une première fois à un bond direct du gauche. Cerdan, légèrement contracté, encaisse encore un direct du gauche, mais il n'a pas l'air de vouloir entendre, il vient de placer un très bon crochet du gauche. Hassan Diouf se tient au loin, mais vient d'encaisser deux crochets du gauche à la figure, et qui l'ont déjà ébranlé. J'ai l'impression qu'ils l'ont peut-être ébranlé davantage moralement que physiquement. Et Hassan Diouf place encore des directs du gauche, mais...
Voilà. Georges Briquet, dans ses œuvres, en train de décrire pour 1945, pour des millions d'auditeurs, le match historique Cerdan-Diouf. Et au passage, vous savez qui est Edmond de Horter, hein? Edmond de Horter, c'était le parleur inconnu. Et c'est celui qui a inventé le reportage radiophonique en 1923. Et on ne le savait pas, nous autres de la passe, et vous non plus, j'en suis sûr. Je pense que la plupart d'entre vous ignorent qui était Cerdan, peut-être pas. Mais enfin, Hassan Diouf, vous allez comprendre pourquoi vous l'avez peut-être oublié. Mais en tous les cas, n'oubliez jamais, jamais, jamais la voix de Georges Briquet.
Marcel Cerdan, au cours de cette reprise, a infligé plusieurs knockdowns à Hassan Diouf. Mais néanmoins, nous estimons qu'il a eu tort de se presser. Il s'est un peu trop énervé après les deux premiers knockdowns d'Hassan Diouf.
Et évidemment, maintenant, il aurait remporté une victoire magnifique par knockout si Le Gon n'avait pas sauvé Hassan Diouf. Actuellement, Hassan Diouf est dans son coin et nous voyons son manager Bretonnel qui est en train de l'asperger d'eau et de lui frotter les oreilles et même de gifler énergiquement son visage afin de faire revenir Hassan Diouf à lui, car Hassan Diouf est nettement knockout sur son petit tabouret. Tous les soigneurs, tout le monde, toute l'écurie Bretonnel est autour de lui. Hassan Diouf revient à lui, on les suit et voici le troisième round.
Troisième reprise. Hassan Diouf d'entrée encaisse un crochet du droit, puis un autre crochet du droit. Il va dans les cordes, un crochet du gauche et il tombe. Il tombe de nouveau, les bras en croix. Cette fois, j'ai l'impression qu'il ne veut pas se relever. Peut-être le pourrait-il, mais j'ai l'impression qu'il abandonne en ce moment le combat un peu volontairement, car il sent qu'il ne peut rien faire. Il se relève à peine au moment où l'arbitre compte 10 et c'est la fin. Hassan Diouf, qui veut se relever pour serrer la main de Cerdan, retombe comme une masse. Il tombe sur son séant et Cerdan est obligé de le transporter lui-même dans son coin. C'est une fin lamentable pour ce pauvre Hassan Diouf, mais c'est véritablement une victoire glorieuse et sensationnelle de plus au titre de Marcel Cerdan. Marcel Cerdan que nous voudrions bien maintenant voir affronter les meilleurs hommes du monde pour rapporter enfin à la France un titre de champion du monde. Mais nous allons essayer, comme Marcel Cerdan est assez calme, de l'amener devant notre micro. Nous ne tenons pas tellement à faire des interviews d'athlètes alors qu'ils viennent de faire un effort comme celui-ci. Néanmoins, Marcel Cerdan est assez prêt, quoique je ne vois pas trop ce qu'il pourrait nous dire. Veux-tu tirer la leçon de ce match, Vendée ?
Battling Show vainqueur par KO, 8e reprise. Battling Show vainqueur par KO, 6e reprise. Battling Show vainqueur par KO, 2e reprise. Battling Show passe au titre européen.
Le 20 juillet 1947, sur les ondes de la radiodiffusion française.
Le Tour de France est donc terminé. Hier, à l'arrivée du Tour au Parc des Princes, vous avez pu entendre un radioreportage de Georges Briquet diffusé en direct sur les antennes de la radiodiffusion française. Reportage qui avait été réalisé à bord d'une Jeep par onde courte, qui, nous devons bien le dire, a été assez sensationnel et que nous allons vous refaire écouter aujourd'hui. Georges Briquet, vous êtes parti en Jeep de quel point ?
Eh bien, je suis parti en Jeep, en réalité, du sommet de la côte de Picardie. C'est une Jeep, comme toutes les Jeeps que vous connaissez. Il fallait donc que je fasse attention à ne pas culbuter, surtout dans les virages. J'avais un micro en main, sur la tête un casque avec deux écouteurs, qui me permettait d'entendre ce que disait Jean Quittard, qui à ce moment-là était au Parc des Princes. Quand on lui a signalé que les coureurs étaient à proximité, arrivés à la côte de Picardie, c'est là que je suis en relation avec lui, et ainsi que Gauche, le technicien. Attention, nous sommes dans la côte de Picardie, attention, vous nous entendez, donnez-nous l'antenne le plus rapidement possible. Ça, ce sont des ordres qui ne sont pas passés dans l'antenne, et qui étaient seulement perceptibles pour nous, techniciens, ou pour les reporters.
À vous, Georges Briquet.
Nous arrivons bientôt à l'entrée de la descente de Saint-Cloud. La descente que vous connaissez, descente enlacée. Voici que nous arrivons au croisement de la dernière rue avant la descente. Nous apercevons le dôme des Invalides ou celui du Panthéon, je ne sais plus. Voici la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui signifie que le Tour de France va se terminer par la victoire du populaire breton Robic. Le premier virage est pris littéralement sur les chapeaux de roue. Nous filons comme nous pouvons derrière avec la Jeep. Notre conducteur se défend, fait la course lui aussi. Et voici qu'ils viennent de prendre le virage derrière les motocyclettes qui les précèdent. Les acclamations vont crescendo. On sent qu'on arrive près de Paris. Pour Robic, ce n'est plus un triomphe, maintenant c'est du délire. Je demande à Jean Quittard, qui m'entend au Parc des Princes, de se tenir prêt à prendre le relais, car maintenant il va entendre l'acclamation populaire qui va déferler jusque sur le Parc des Princes et lui annoncer l'arrivée des coureurs.
Tour de France, Tour de France, randonnée fantastique des géants. Tour de France, Tour de France, de l'année l'événement le plus grand.
Allô, eh bien, ici le Parc des Princes, vous entendez l'explosion de ce parc qui vient de saluer l'entrée de Raymond Poulidor sur la piste. J'ai regardé mon chronomètre.
Été 64, France Inter.
Il y a exactement 15 secondes que Raymond Poulidor et a franchi le tunnel, il se trouve maintenant sur la ligne opposée. Il a débordé bas à Montès, il va arriver, il prend le dernier virage là-bas. Et maintenant, il n'est plus qu'à 250 mètres de l'arrivée. Bas à Montès essaie de s'accrocher derrière. Raymond Poulidor va arriver maintenant, il est sur la dernière ligne droite. Et dans quelques instants, ce sera le deuxième top de l'arrivée. Attention, le voilà, top Raymond Poulidor vient de franchir la ligne tandis que Raymond Mamontès était dans sa roue. Je regarde maintenant mon chronomètre car ce sera le dernier top de cette journée lorsque Anquetil avec son beau maillot d'or va sortir du tunnel. Il va y avoir dans quelques instants... Allô, oui, je vous en prie.
Je vais vous narrer la fin de course de Jacques Anquetil.
Mais je vous en prie.
Il y a maintenant 55 secondes que vous nous avez donné le top. L'allure n'a pas changé. Nous allons maintenant arriver sur l'avenue qui débouche directement sur le Parc des Princes. C'est absolument formidable. Il y a un public record, vous entendez les applaudissements qui fusent, le public est averti que maintenant Jacques va sans doute conspirer sa victoire. Nous sommes à 1 minute 15, il n'a toujours pas pris le virage de l'arène. Nous traversons maintenant, nous sommes juste derrière Jacques, toujours encouragé, pas un mouvement qui marque que Jacques Anquetil se désunisse. Il prend le dernier virage, je crois, on nous avertit, top pour la flamme pour Jacques Anquetil. Nous en sommes à 1 minute 30, nous allons arriver au Parc des Princes et nous allons vous laisser là sur cette impression, pas encore. On ne sait jamais dans les derniers mètres. Vraiment, il serait idiot, stupide de...
Allô, Paul Laporte. Il y a exactement, à mon chronomètre, 2 minutes 35 secondes que Poulidor a franchi le tunnel. Par conséquent, Anquetil n'est pas encore là, mais je pense qu'il ne va certainement
voilà.
pas... Une
le
minute
voilà.
et demie, pardon. Il est là, vous pensez?
Le voilà, vous allez l'avoir dans quelques instants. Nous le laissons, nous arrivons à la dérivation. Alors, à vous pour Jacques Anquetil.
Mais actuellement, tout le stade attend l'arrivée sous le tunnel de Jacques Anquetil. Mais il s'est repris certainement dans les derniers mètres car le voici surgissant maintenant. Je vous assure que ce n'est pas gagné. Ce se jouera évidemment au millimètre ou au centimètre, comme je l'avais dit. Effectivement, Jacques Anquetil effectue maintenant le virage. Il prend la ligne opposée. Il passe devant la tribune Tour de France. Le public l'acclame, le public l'encourage. Jacques Anquetil est en train de prendre maintenant le dernier virage. Il le prend d'ailleurs très bas. Je vous assure qu'il donne le meilleur de son effort. Le public ovationne. Voici la ligne droite. La fin du tour. Les 4465 km vont être terminés dans quelques instants. Attention, et voilà. Et top! Il vient de franchir la ligne. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre la décision, non pas des êtres humains, mais des mécaniques. Puisque, aussi bien vous le savez, ce sont les horloges mécaniques qui règlent au fond cette décision du tour. Et tout le monde attend dans l'anxiété, évidemment. Il y a eu beaucoup d'ovations, maintenant le stade va s'apaiser. C'est dans ce verdict fait de minutes et de secondes.
Jean-Bruno,
allô, oui.
37 minutes et 10 secondes pour Jacques Anquetil. 37 minutes et 10 secondes pour Jacques Anquetil, à vous.
Eh bien, Poulidor a été crédité de 37 minutes 31 secondes et Jacques Anquetil 37 minutes 10 secondes. Par conséquent, il lui prend 21 secondes. À vous, Daniel Potra.
Oui, ben c'est ce qu'on avait dit, vous voyez. Jacques Anquetil, finalement, est quand même le plus fort dans ses épreuves contre la montre. Il gagne avec 21 secondes d'avance aujourd'hui. Et Rudy Altig, qui avait fait un bon temps, est lui aussi dominé. Je vais maintenant essayer de m'approcher de Raymond Poulidor ou de Jacques Anquetil. Je ne sais pas qui est là. Oui, il y a Raymond Poulidor qui est par ici. Pardon, excuse-moi. Pardon. Ici, Raymond Poulidor qui est ici. Raymond Poulidor est en train de voir alors, Raymond.
Ben, je ne sais pas encore mon temps.
37-31.
C'est-à-dire, je bats Jacques Anquetil. Non?
Non, Raymond, vous pouvez me répéter les temps, Jean-Bruno?
Eh bien, voici les temps qui sont sur le tableau. Premier, Jacques Anquetil, les 27 km 500 en 37 minutes 10 secondes. Deuxième, Rudy Altig à 16 secondes.
Allô, Jean-Bruno?
Allô, oui.
Allô, Jean-Bruno, bon, je vous reprends l'antenne parce que Raymond Poulidor ne sait pas encore qu'il a perdu le Tour de France. Raymond Poulidor, c'est Jacques qui gagne.
Ben oui, on me disait que j'avais gagné.
C'était formidable ce que vous avez fait tous les deux, formidable.
Alors Raymond, comment vous réagissez?
Ben, on m'avait annoncé que j'avais gagné, ma foi. Maintenant, on m'annonce que je perds, alors évidemment, je suis très déçu, mais j'ai fait tout mon possible.
Raymond Poulidor est en train de vivre un moment difficile en ce moment. Il a fait tout son possible, mais Jacques Anquetil, sur la fin, vous a pris 21 secondes. Vous étiez revenu à égalité à 6 km de l'arrivée.
Ah oui. Ben, évidemment, le parcours sur la fin, puis j'avais parti très vite. J'avais fait le maximum, alors j'ai faibli sur la fin. Jacques a été le plus fort, ma foi, il a gagné.
Merci Rémi.
Voilà, Poulidor a perdu. Encore un reportage dans un registre tout à fait différent. On est en 1970, la guerre est terrible au Biafra, dans cette région du Nigeria, et il y a là un reporter de Radio France Internationale.
la radio mondiale.
À présent, le Biafra.
Nous progressons toujours et nous allons arriver maintenant tout près de ce village qui doit être l'objet de l'attaque d'aujourd'hui. Nous avons déjà passé devant un certain nombre de maisons qui sont closes, dont les volets sont baissés, dont les portes sont soigneusement verrouillées, mais qui vraisemblablement n'échapperont pas au pillage tout à l'heure. Nous avons maintenant investi le village. Les hommes défoncent les portes, s'introduisent dans les maisons, pillent le cheptel, les porcs, les chevaux. Et défoncent les clôtures pour s'introduire un peu partout dans les jardins et de tous les coups. Il semble qu'il y ait de la résistance. Tout ce bruit pour un homme qui vient d'être fait prisonnier. Les enfants qu'on extrait de leur case. Il y a un certain désordre qui règne. On exécute le prisonnier à coups de machette. On vient de recevoir le coup de grâce maintenant.
S'enfuir les uns après les autres dans la savane derrière les arbres.
L'anecdote, c'est une anecdote triste, mais c'est une anecdote. Alors que l'officier nigérian allait donner l'ordre de tirer contre le prisonnier qui était attaché à un arbre et qui avait les yeux bandés, le caméraman de la télévision britannique a levé le bras, il a dit arrêtez une minute, sa caméra n'était pas prête. L'officier a été décontenancé, il a donné l'ordre à ses hommes de rebaisser les armes, ce qu'ils ont fait. Et c'est le journaliste, finalement, qui a en fait donné l'ordre de l'exécution en disant « Maintenant, vous pouvez y aller ».
Oui, le reportage, ça peut aller jusque-là aussi. C'est pas nous conduise, comme promis, à celui qui a été sans doute une des plus belles figures de cette radio, de France Inter, de Radio France en général, qui a été le maître et l'ami de beaucoup d'entre nous, qui a fait que si parfois les uns ou les autres ont un peu de talent, il y est pour quelque chose. Il s'agit de Yann Barentoen. J'ai oublié de vous dire que toute cette histoire du reportage, c'est aussi l'histoire de la technique, de l'évolution de la technique et de l'invention d'un fameux magnétophone qui était un Agra. Un jour, Yann Barentoen a eu l'idée d'aller faire entendre à un très grand reporter, plus âgé que lui, qui s'appelait Samy Simon, lui faire entendre l'un de ses reportages, un reportage de Samy Simon. Samy Simon avait fait un reportage fameux que Barentoen avait aimé, et ce jour-là, il est allé voir Samy Simon pour lui faire entendre ce reportage.
Je vous en prie,
je passe devant pour vous.
Bonjour.
Ah, vous arrivez chargé.
Bon. Je voudrais vous faire entendre un son qui vous appartient.
Ah bon?
Que j'ai trouvé.
Entrez donc, je vous en prie.
Oui, parce que là, oh là là, mais
entrez, madame. Entrez. C'est le Nagra que vous avez là. Oui. Alors le mien était plus lourd. Oui.
On pourrait ramener le petit magnéto près de M. Simon.
D'accord.
Je vais vous envoyer le bruitage.
Allez, Damien.
J'entends là, vous me rappelez un vieux souvenir, ça m'émeut parce que je retrouve les intonations, les appels. magique, en même temps que les recommandations de celui qui dirige l'opération. On s'attaque à un arbre qui fait 60 mètres de haut, qui fait je ne sais combien de tours de circonférence. Et évidemment, il s'agit d'un des rois de la forêt primaire. Et quand il va s'abattre sur des dizaines d'autres, ça va faire un joli vol éperdu d'oiseaux de tous bords. Et puis ça va faire aussi, ça crée un danger, bien sûr, pour les assistants. Voilà. Mais là où il s'y mêle aussi des appels magiques, parce qu'on invoque un peu le dieu de la forêt, et les génies de la forêt, et la protection, et les excuses, parce qu'on va tuer un arbre, ce qui est considéré comme un acte plus meurtrier que de tuer un homme. Et alors, c'était la première fois de ma vie que j'assistais vraiment à cette opération. Et j'ai dû l'enregistrer sur un magnétophone 76 cm, un des premiers magnétophones en service dans les opérations extérieures. Voilà, alors, là, on arrive près de la, j'allais dire, d'exécution capitale, mais enfin de la minute fatidique, là, on approche vraiment de la chute finale, qui va être un bruit fantastique. Il y a un arrachement de la fibre qui a l'air vraiment d'être un adieu à la vie de l'arbre. Voilà. Voilà l'arrachement des fibres. Là, je me tais comme devant une agonie. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment l'agonie d'un arbre, avec toutes ses phases jusqu'au dernier soupir. Mais quel retentissement. C'est fini. Ça devait être en 57-58. Je pense. 57-58. Pas après. Sur les premiers magnétophones. Était-ce un agra ? Là, alors, je ne suis pas certain.
Il faut rapprocher le micro de la fenêtre des archives sélectionnées par Norbert Vallée et Antoine Chaot. Merci à tous, merci à Pierre Crenès, Pierre Schaeffer, Georges Briquet, Yann Parentoel, Samy Simon. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter également cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org et aller faire un tour sur la page Facebook de l'émission où les surprises vous attendent. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Loïc Frapsaud. L'émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la basse J'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la basse J'y suis. Tout de suite, je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue au Café de l'Orient, à Libourne, en compagnie de Claude Villers. Alors Claude Villers, hier, vous nous avez raconté comment vous avez eu votre carte de presse à 17 ans et demi avec le numéro 20004. Oui, c'est ça, ça fait 20004.
Oui, j'en veux, oui. Non, parce que ça fait comme 007.
Excusez-moi, d'accord. Avec votre carte 20004. Aujourd'hui, je voudrais que vous me racontiez comment vous êtes rentré à France Inter.
Oh là là. Eh bien, c'est-à-dire que il se trouve que la presse écrite où je sévissais commençait à mal aller. Je me suis retrouvé au Chaume-du et j'ai pas eu le temps d'ailleurs même de m'inscrire. Je sais pas si ça existait à l'époque d'ailleurs. Et j'ai un copain qui m'a dit oh ben t'as dû interviewer, t'as entendu, il y a Roland Dandin que tu avais interviewé, voilà, à Radio Magazine quand il était présentateur, il était présenté une émission sur France Inter, sur Paris Inter. Roland Dandin, en décembre 1963, était devenu le patron d'une nouvelle radio qu'il avait rebaptisée France Inter. Et donc, il engageait des nouveaux pour tenir l'antenne ou pour travailler. Bon. Et donc, je me suis dit, bon, je vais aller voir Roland Dandin. Je lui ai téléphoné. Je lui ai dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je vous ai interviewé. Faire ah oui, un petit gros. C'est ça. Un petit gros, oui. Et donc, on a pris rendez-vous. Ben, il m'a donné un rendez-vous plutôt. Et donc, je suis allé le voir. Il m'a dit est-ce que vous pouvez me faire rire ? J'ai dit, comment ça, vous faire rire ? Ben, il me dit, j'ai vu que vous écriviez des textes pour Jean-Yann et Gérard Cyr sur Europe 1. Et dans 1 plus 1 égale 2, une émission de télé. Donc, j'ai une émission de. Il y a besoin d'écriture et tout. Voilà. Donc, j'ai commencé par écrire des. Ça a eu l'heure de lui plaire, disons ce que j'ai. Il m'a demandé deux sketchs. Il a appelé Jean-Marie Audoux, qui à l'époque était le réalisateur de Table Ouverte, l'émission de José Arthur, qui était une émission avec des sketchs et tout. Et puis, j'ai commencé à travailler. J'avais trouvé des piges dans différents journaux. Et puis, en plus, je faisais je donnais mes textes qu'une dactylo nommée Monique Desbarba.
Le début d'une grande histoire.
Ah oui, elle travaillerait... retaper, voilà. C'est parti comme ça.
Alors, quelle a été votre première émission avec votre nom à France Inter ?
J'ai fait une émission d'abord. J'ai fait des remplacements, comme tout le monde. Un jour, je venais de rentrer des États-Unis. Je suis rentré au mois de mai 71. Et puis, il m'appelle, il me dit, bon, ben, tu vas remplacer Jacques Chancel. Alors, j'ai dit, quoi ? Il me dit oui, mais je lui dis mais j'ai fait des interviews bien évidemment, mais pas poussé comme ça. Mais fais pas ça du tout. On t'a payé pendant 3 ans aux États-Unis, tu vas nous raconter les États-Unis. Et j'ai fait une émission qui s'appelait À plus d'un titre en juillet 71. Et puis ça a marché, il y a eu beaucoup de courriers, Ah, c'est une quotidienne qui avait lieu à la place de Radioscopie de l'époque, c'est-à-dire entre 17h et 18h. Et ça a bien marché. Et à la rentrée, Dordain m'a dit, bon, tu vas faire une émission de 4 à 5, 16h à 17h. Et je lui ai dit, oui, mais je ne vais pas raconter tout le temps encore les États-Unis. Ben, il me dit, il trouve autre chose. J'ai dit, si on prend un fait d'actualité, je sais pas, il y a un grand incendie dans le monde ou à Paris ou à New York, on va faire l'histoire des pompiers. Et donc voilà, ça s'appelait À plus d'un titre. Et À plus d'un titre, c'était, je vous raconte l'histoire de ceci, il y a un naufrage, ça rappelle telle histoire, etc. Et tous les jours, j'avais 18 feuillets à écrire, je me souviens, avec Monique Tapet après. Voilà, et puis ça a continué pendant 40 ans, j'ai pas tout pas survécu.
Non mais, c'est déjà un bon début. Alors je vois qu'on a un point commun, c'est que tous les deux on est rentrés à France Inter grâce à Roland Dordain. Donc créateur de France Inter, c'est bien de lui rendre hommage aujourd'hui.
Un temps de pochon. c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain.
Saint-Étienne, atelier visionnaire. 2014, The New York Moment. À partir du 17 janvier, le festival Saint-Étienne Nouveau Siècle vous propose une plongée dans l'art new-yorkais des années 70. Une semaine de spectacles, concerts, opéras, ballets, autour de Philippe Glass à l'Opéra Théâtre. Trois grandes expositions d'artistes new-yorkais au Musée d'Art Moderne. Joël Shapiro, Peter Halley, ainsi que la jeune création. À partir du 17 janvier, Saint-Étienne à l'heure new-yorkaise. Renseignements sur les sites et réseaux sociaux de l'Opéra Théâtre et du Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne.
À tout hasard, vous êtes dispo le 11 décembre ? Alors venez vite vous prendre au jeu à la Gaîté Lyrique. Des intervenants prestigieux, historiens, philosophes, sportifs, journalistes et mathématiciens, décrypteront la place du jeu dans nos vies. Raphaël Enthoven, Isabelle Autissier, Marion Bartoli ou encore Vincent Cespedes seront de la partie aux côtés de Denis Brognard. Avec vous, ils débattront de la chance, du hasard et du risque. Inscrivez-vous vite sur www.enjeudesociété.fr.
Enjeu de société est un événement inspiré par FDJ. France Inter présente Mon Oncle, un chef-d'œuvre de Jacques Tati au cinéma le 18 décembre en version restaurée.
Oh, c'est si pratique, tout communique.
Toujours aussi rêveur et bohème, Monsieur Hulot sème la pagaille dans l'univers moderne et mondain de la famille Harpel.
Georgette, ouvrez-nous.
Une œuvre drôle, burlesque et tendre à découvrir au cinéma.
On est bien ça.
Retrouvez Mon Oncle dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Bernard Lavillier, Baron Samedi.
Comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion.
Avec Baron Samedi, j'explore le monde d'aujourd'hui et sa mémoire.
Dans une nuit d'épouvante,
les grands mythes et le cœur de chaque homme.
Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint.
Bernard Lavillier.
Et tu n'es pas un hélas.
En tournée dans toute la France.
Tu n'es pas sain.
Retrouvez-moi dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, c'est une information. Donc France Inter, Yasser Arafat est mort de vieillesse. Les experts français mandatés par le parquet de Nanterre pour déterminer les causes de sa mort affirment donc aujourd'hui que le leader palestinien n'est pas mort empoisonné, mais des suites d'une infection généralisée. Une thèse qui contredit celle des experts suisses qui ont fait les mêmes prélèvements sur sa dépouille et qui affirment eux au contraire que des traces de polonium, une substance radioactive, ont été retrouvées sur son corps, ce qui tendrait à affirmer la thèse de l'empoisonnement sans toutefois émettre de certitude. La mère d'Adélaïde avait accouché chez elle, à son domicile de Saint-Mandé en Seine-et-Marne, où elle a été interpellée ce week-end. La fillette de 15 mois retrouvée morte sur la plage de Berck dans le Pas-de-Calais était inconnue de l'administration. C'est ce que dit aujourd'hui une source proche de l'enquête. Fabienne Cabou a été mise en examen et écrouée samedi. Elle est poursuivie pour assassinat. L'Assemblée nationale a saisi aujourd'hui l'autorité de la concurrence. Ça concerne la gestion privatisée des autoroutes et notamment la hausse des tarifs revendiqués par les sociétés. Charge à l'autorité de la concurrence maintenant de faire un bilan des recommandations qu'elle avait formulées lors de la privatisation en 2005. Le plan de relance autoroutier, lui, doit être annoncé au début de l'année prochaine et il doit permettre aux concessionnaires d'engager plus de 3 milliards d'euros de travaux sur le réseau en échange d'un allongement de la durée de leur concession. Les syndicats d'enseignants sont inquiets aujourd'hui après la publication des résultats français de l'enquête internationale PISA sur la performance des élèves de 15 ans. La France a fait moins bien qu'en 2009. Elle est désormais à la 25e place, loin derrière Shanghai qui a obtenu les meilleurs résultats. L'enquête pointe du doigt les inégalités sociales et scolaires croissantes en France, ainsi que la formation des enseignants. La FSU demande aujourd'hui une réelle transformation du système éducatif. L'école doit être pensée en priorité pour les jeunes qui sont le plus éloignés de la FSU. De son côté, le SNUIPP, premier syndicat du primaire, pense la même chose. Il est urgent d'agir. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, parle de résultats préoccupants, lui, et inacceptables. Le procès en appel de Gérard Depardieu pour conduite en état d'ivresse est reporté au 8 avril prochain. L'acteur devait comparaître aujourd'hui, mais il n'était pas présent pour cause de tournage dans le sud de l'Italie. Le président de la Cour d'appel de Paris a donc fait savoir à son avocat qu'il acceptait le report du procès à condition que Gérard Depardieu soit présent lors de l'audience au printemps. L'acteur français était condamné en première instance à 4000 euros d'amende et 6 mois de suspension de permis. En théorie, il risque jusqu'à 2 ans de prison ferme pour avoir été contrôlé à un taux d'alcoolémie de 1,8 grammes par litre de sang en 2012. L'association qui poursuit Bob Dylan pour ses propos sur les Croates préfère des excuses publiques à une condamnation. Le Conseil représentatif de la communauté des institutions croates de France le dit aujourd'hui. Le chanteur américain est poursuivi pour injures et provocations à la haine. Dans une interview accordée à Rolling Stones, Bob Dylan disait ceci: « Si vous avez un esclavagiste ou un membre du Ku Klux Klan dans le sang, les Noirs peuvent le sentir encore aujourd'hui, tout comme les Juifs le sang nazi et les Serbes le sang croate. » Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, France Inter fête ses 50 ans.
C'est parti!
50 ans. Qu'on ouvre la voie.
S'il vous plaît, un petit disque, une petite musique là.
50 ans.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.
50 bougies à souffler.
Maintenant,
tout en archive.
Écoutez cette voix.
Boris, un mot.
Quatre notables, enfin quatre personnages.
Tu vas pas te mettre à raconter le film quand même.
Non mais...
On t'a dit un mot.
Ah bah il va être long.
Mais ne coupez pas.
524-71-00, j'écoute.
J'ai une lettre une fois de plus de quelqu'un qui vous reproche, qui nous reproche de tous parler à la fois. Pitié pour les auditeurs qui ont l'impression d'être un jour de foire sur une place de village.
Les pharmaciens vendent bon, les médicaments.
Les pharmaciens vendent des
médicaments. Parfaitement.
Les pharmaciens,
oui.
Vous
c'est
le savez comme
vous
moi.
Marchez.
Je ne vous ai pas interrompu.
S'il vous plaît, s'il
alors
plaît,
pourquoi vous m'interrompez? Taisez-vous, le roi. Taisez-vous. Je ne vous ai pas interrompu quand vous avez dit des ignominies.
Vous
avez été ignoble. Comme d'habitude.
Je n'accepte pas qu'on me traite d'ignoble.
S'il vous plaît. Vous le dites, moi je m'en vais si vous m'interrompez.
S'il vous plaît, messieurs.
Je ne vous ai pas interrompu.
S'il vous plaît, messieurs.
Vous avez été ignoble.
Attendez, madame Gaillard.
J'écoute.
Dites non, patron, maintenant il y a la tribune libre. Hein,
oui, mais dites-donc, on n'a plus le temps.
Ah bah, c'est trop tard là maintenant.
Combien il reste?
30 secondes.
C'est plus qu'il en faut. Bon, alors que chacun donne son opinion bien clairement. Allons-y. D'accord. Allez.
Bon, alors, on va parler dans les
conditions.
Il fallait que ce fût dit.
Pardonnez-moi une seule seconde.
C'est dit.
Cette semaine,
France Inter fête ses 50 ans.
Top. Le reste de la séquence est confidentiel.
À partir de vendredi,
France Inter allumera ses 50 bougies partout en France.
Au sommet de la Tour Eiffel,
en direct et en public de Lille,
Nantes,
Toulouse
et Clermont-Ferrand.
Pour terminer par le Théâtre de l'Odéon
et un concert exceptionnel.
En partenariat avec la Gaîté Lyrique, à suivre sur l'antenne et en vidéo sur franceinter.fr.
Il n'y aura que l'essentiel, mais pour aller à l'essentiel, il faut connaître le détail.
Trois jours de fête.
Avec tous ceux qui ont fait,
qui font
et qui feront la richesse et la diversité de France Inter.
Les émissions cultes,
les auditeurs
et les personnalités.
Tous ceux qui vous ont fait aimer France Inter.
Retrouvez dès maintenant sur franceinter.fr le blog des 50 ans.
Avec les archives sonores,
les photographies,
les articles de presse,
les vidéos.
Retraçant 50 ans d'histoire radiophonique.
Eh bien, je pense que les auditeurs de France Inter ont retenu l'essentiel du programme que vous avez annoncé. Il va de soi que si leur mémoire est défaillante, au cours de nos émissions de la journée, nous ne manquerons pas de leur rappeler ce qu'ils auraient pu oublier.
Cette semaine,
France Inter fête ses 50 ans.
Avec la MGEN, Mutuelle Santé, Prévoyance, Autonomie Retraite.
Rendez-vous dès maintenant
sur franceinter.fr.
On est comme ça sur France Inter, on fête les 50 ans. Vous n'avez pas 50 ans, Frédéric Lodéon.
Oh, un tout petit peu dépassé quand même. Mais on va fêter à Nantes très bientôt, ce sera vendredi, au lieu unique à partir de 16h.
Vous avez bien de la chance, allez, amusez-vous bien.
Je vous embrasse, Laetitia, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Oui, France Inter sera entre autres à Nantes ce vendredi et il y aura du beau monde. Ce sera au lieu unique à Nantes, on connaît bien cet endroit, l'ancienne usine Lu. Et c'est sur le quai Ferdinand Favre derrière la gare, on peut y aller à pied, non loin de la cité des congrès aussi. Donc Laurence Perron va mener l'émission avec José Arthur, légendaire, Frédéric Mitterrand, formidablement célèbre aussi, Barbara Carlotti, vous entendez le soir, Laura Leishman, un peu plus tard aussi sur l'antenne de France Inter, Patrice Maurice Blanc-Francard, amoureux de la musique, fameux, et puis d'autres invités comme Bertrand Burgala, Benjamin Nérault et Raphaël Sévère, que nous avons réussi à toucher, à faire venir, bien qu'il soit très occupé. Il va jouer à la Cité de la Musique deux jours après, à Paris. Il vient d'obtenir un très grand prix international, c'est Young Concert Artist, et ça, c'est un prix qui est extrêmement concouru, qui est très demandé, qui a 200 candidats au départ, qui vraiment rameute 200 candidats de 35 pays différents. Et ben, il y a eu trois prix, un clarinettiste, un violoniste et un pianiste, et parmi ces instrumentistes, cocorico, un français qui est Raphaël Sévère, dont les parents sont nantais, ils sont de cette région-là, ils habitent là en tout cas, le père est professeur de clarinette, la maman est pianiste, et lui, il sera avec nous au lieu unique à Nantes à partir de 16h ce vendredi. Venez nombreux, on vous attend avec affection, avec chaleur, et il y aura beaucoup de moments, comme on dit aujourd'hui, live, enfin d'interprétation en direct. Je vous propose d'entendre tout de suite le très jeune Raphaël Sévère à l'époque, quand il a fait son premier disque, il avait 12 ans, dans la sonate pour clarinette et piano de Camille Saint-Saëns, Allegro Animato.